Et bonjour, vous êtes bien sur FM+, vous êtes à Montpellier sur le 91 ou Animalliance Plus sur le 103.1. Alors aujourd'hui, eh bien, mission particulière pour Tchakona, puisque nous allons essayer d'installer un petit rythme, et le petit rythme, ce sera tous les deux mois à peu près. On va essayer de parcourir les nouveautés musicales. Et aujourd'hui, eh bien, nous allons écouter pas moins de 6 nouveaux CD. Alors aujourd'hui, eh bien, nous allons prendre un rythme, donc nous allons écouter quelques CD qui ont paru dans les 2-3 mois précédents. Et donc aujourd'hui, nous allons, comme je vous l'ai dit, écouter pas moins de 6 CD ou 6 extraits d'un CD. Alors aujourd'hui, nous allons commencer d'ailleurs par une très belle soprano, une soprano américaine qui s'appelle Joyce DiDonato et qui vient de faire paraître un très beau CD. Alors Joyce DiDonato, elle est née aux États-Unis à Prairie Village dans le Kansas en 1969. Ça se dit pas pour les dames la date anniversaire, mais enfin je le dis quand même, je redirai plus. Elle a travaillé à l'université de Wichita. Ensuite, elle a intégré l'Académie d'art de Philadelphie et elle a rejoint les studios de Santa Fe et puis de Houston en 1992, et à partir de 1992, début professionnel, elle a gagné le concours George London aux États-Unis, le deuxième prix d'Operalia, et ensuite à partir de 2001, grand succès à la Scala dans la Cenerentola, à Paris dans Rosine et du Barbier, à Munich dans Chérubin des Noces. Et après, ben, c'est Mozart, c'est Amsterdam et Aix, c'est Déjanir d'un Hercule de Handel à Paris, à New York, etc., etc. À partir de 2007, elle développe très fortement son répertoire handelien avec Alcina et Ariodante. On pourra éventuellement vous le faire écouter, j'ai déjà ses CD. Et elle aborde Roméo de Bellini à l'Opéra de Paris, hein, donc toujours cette année 2007, Don Giovanni 2009, etc. Et après, petit à petit, elle se met à élargir très fortement son royaume, je dirais, puisqu'elle a chanté Mary Stuart de Donizetti et puis la Donna del Lago de Rossini. Et voilà Tipa qu'elle vient de faire paraître un CD qui a paru, ça se dit peut-être pas, mais je vais le dire, ça se dit chez Erato, qui s'appelle Stella di Napoli. Eh bien, nous allons écouter un certain nombre d'airs qu'elle a enregistrés, un air donc de Bellini, de Rossini, de Mercadante, de Carafa, de Donizetti. Et nous allons l'écouter accompagné par le chœur et l'orchestre de l'opéra de Niol, dirigé par Monsieur Riccardo Minasi. Donc la voici dans un petit extrait, alors un petit extrait qui dure quand même une bonne dizaine de minutes. Vous allez voir comment Madame Joyce DiDonato chante et comment elle chante.
Una circondate mi cario gente, poiché
voilà, vous venez donc d'écouter la merveilleuse soprano Joyce Di Donato dans l'enregistrement qu'elle vient de faire, qui a pour titre Stella di Napoli. C'est des airs d'opéra romantique, comme on dit. Donc c'est du bel canto romantique, à différencier bien sûr du romanto, du bel canto baroque. Joyce Di Donato, merveilleuse chanteuse, on pourra vous la refaire écouter. Donc elle était accompagnée ici par le chœur et l'orchestre de l'Opéra National de Lyon, dirigé par Riccardo Minasi. C'est un enregistrement Erato qui a été enregistré en 2013 et qui vient de paraître donc toujours chez Erato. Deuxième compositeur au programme, M. Jean-Philippe Rameau. Alors vous connaissez tous Jean-Philippe Rameau, puisqu'on vient de fêter eh bien, le 250e anniversaire de sa mort. Il est né à Dijon en 1683, il est mort à Paris donc le 12 septembre 1764. Il est compositeur, théoricien de la musique. Et alors l'œuvre la plus importante de Rameau, c'est d'abord l'apogée du classicisme, et c'est surtout ses fameux opéras et opéra ballet, les Indes galantes ou des tas d'autres. Et des œuvres pour clavecin sont extrêmement connues, comme par exemple le Tambourin, l'Entretien des Muses, la Poule, la fameuse Poule, qui a été jouée au piano. Toutes ces œuvres ont été jouées normalement au clavecin, mais elles ont été réenregistrées pour le piano. Et il fait partie des grands monsieur, au même titre que Couperin, Bach ou Scarlatti. On le considère comme étant le plus grand musicien français avant le 19e siècle, et en particulier l'un des théoriciens majeurs de la musique. Et il faut bien savoir que son traité d'harmonie fait toujours partie des figures de référence, même si par endroits il est par exemple un peu dépassé, mais enfin quand même. Donc là, nous allons écouter des pièces de clavecin en concert. C'est un CD qui a apparu chez Flora. Vous allez écouter donc l'ensemble qui s'appelle Les Timbres, Julian Wolfs au clavecin, Yoko Kawakubo au violon et Myriam Rignol à la flûte. Et en particulier, il faut savoir que Myriam Rignol, qu'est-ce que je dis à la flûte ? Non, la viole, je dis n'importe quoi. Justement, Myriam Rignol joue une copie d'une viole qui a été conservée à la Cité de la Musique et qui, elle, a une corde supplémentaire, ce qui permet de jouer un peu plus dans l'aigu, qui résout justement un certain nombre de difficultés dans ses pièces à concert. Alors nous allons écouter un extrait de ses pièces à concert, en particulier l'une des plus connues qui s'appelle La Forquerie. Donc voici une pièce pour de clavecin en concert de monsieur Jean-Philippe Rameau. Thank you. Voilà, c'était dans La Forquerie, extrait des pièces en concert de M. Jean-Philippe Rameau, joué ici par l'ensemble qui s'appelle Les Timbres, Julien Wolf au clavecin, Yoko Kawakubo au violon et Myriam Rignol à la viole de gambe. C'est un enregistrement qui vient de paraître chez Flora. Autre compositeur, nous allons passer maintenant à de musique plus proche de nous, il s'agit de M. Piotr Ilitch Tchaïkovski. Alors Tchaïkovski, vous le savez peut-être, il est russe, c'est l'un des grands compositeurs russes de la fin du 19e, puisqu'il est né en 1840 à Voskhod et qu'il est mort à Saint-Pétersbourg en 1893. C'est un compositeur hyper éclectique, pas moins de 11 opéras, on n'en donne pas souvent, 8 symphonies, 4 des suites pour orchestre, des concertos pour piano et pour violon, des ballets, pas moins de 6 mélodies. De 106 mélodies, c'est déjà pas mal, et surtout une bonne centaine d'œuvres pour piano. Alors vous connaissez tous le fameux « La mort de Tchaïkovski », on ne sait pas, il était marié, mais il était peut-être un peu homosexuel. Est-ce qu'il s'est vraiment suicidé en buvant un verre d'eau qui lui a donné une maladie, qui l'a fait passer de vie à trépas? Ou est-ce qu'on lui a ordonné de mourir parce que visiblement il avait eu des relations avec un des fils du tsar, on ne sait pas, on pense plutôt que sur cette dernière hypothèse. Alors M. Tchaïkovski, son œuvre est plus d'inspiration plus occidentale que ses compatriotes contemporains. C'est la figure dominante du romantisme russe du 19e siècle. Alors là, nous allons l'écouter dans quelque chose d'assez rarement donné. En fait, il s'agit tout simplement du Chant d'automne. C'est une œuvre pour piano. Il vient de paraître justement chez la firme Hyperion, enregistré en 2013, ces morceaux, les saisons et les 6 morceaux. Il s'agit de Pavel Kolesnikov au piano et vous allez voir comme c'est quelque chose de super, super magnifique. Donc le Chant d'automne de Tchaïkovski par Pavel Kolesnikov. Thank you. Voilà, c'était donc Pavel Kolesnikov dans un enregistrement Hyperion qui contient les deux grands cahiers pour piano de seul de Tchaïkovski, donc les saisons opus 37b et les six morceaux opus 19, donc ces enregistrements qui viennent de paraître donc chez Hyperion avec Pavel Kolesnikov. Alors nous allons continuer un peu les nouveautés musicales et nous allons passer à un compositeur contemporain que certains aiment et que certains détestent. Il s'agit de M. Yanis Xenakis. Alors il est né en Roumanie en 1922 et il est mort à Paris en 2001. Il est compositeur, il est architecte, il est ingénieur. Alors vous savez qu'il est d'origine grecque et puis si vous avez vu peut-être son visage en photo, vous savez qu'il a été blessé suite à un attentat. Et il faut savoir également qu'il est marié à l'écrivaine Françoise Xenakis, qu'on entend souvent sur France Musique ou France Culture, et il a une fille qui est peintre et sculptrice, Maki Xenakis. Donc d'abord, il a travaillé avec Le Corbusier, il a créé le fameux pavillon Philips, qui maintenant est d'ailleurs détruit, et c'est à cette époque-là qu'il s'est mis également à composer de la musique, et il a créé de la musique avec ordinateur, et en particulier de la musique dite stochastique. Donc M. Xenakis a énormément composé, bon, pour l'ordinateur certes, mais également pour l'orchestre, et il faut au moins, on peut prendre des grands morceaux de musique qu'il a écrit comme Jonché, c'est un chef-d'œuvre absolu. Et là nous allons écouter un CD qui vient de paraître pour la firme Mode. C'est un CD dans lequel on va trouver un orchestre, en particulier l'International Contemporary Ensemble, qui est ici est dirigé par tout un tas d'ensembles, en particulier par plutôt M. Steven Schick. Et nous allons écouter une de ses œuvres qui est certainement l'un des chefs-d'œuvre, M. Palimpsest. C'est une œuvre pour piano et ensemble qui reprend à peu près la même idée que dans Jonché, c'est-à-dire une échelle de hauteur fixe. Et on ne peut pas rentrer plus dans les détails. Si je vous dis que c'est la gamme Pélog de Java, ça ne vous dira pas grand-chose. Et Java, l'île de Java, évidemment. Voilà. Donc nous allons écouter une œuvre absolument extraordinaire. C'est un peu violent, il ne faut pas avoir peur. Donc voici le début de Palimpsest de Yanis Xenakis. Donc l'ensemble l'International Contemporary Ensemble, dirigé par M. Steven Schisch. Thank you. Voilà, vous venez donc d'écouter un extrait de Palimpsest de Yannis Xenakis, et suit pour illustrer cette nouveauté. À côté de ce Palimpsest, il y a Échange, il y a Akantos, il y a Zitos, et il y a Talaïn, et ensuite Omega. Toutes ces œuvres sont jouées par l'International Contemporary Ensemble, dirigé par M. Steven Schick, je ne sais pas trop comment il faut dire. Un enregistrement qui a été réalisé en 2010 pour la firme Mod. Alors là, maintenant, nous allons faire un énorme écart. Nous allons venir à un compositeur et chanteur français, M. Pierre Guédron, qui est né vers 1570 et qui est mort à Paris vers 1620. Alors tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur les dates, mais enfin bon, c'est à peu près ça. Alors M. Pierre Guédron, eh bien, grand compositeur, et en particulier ce qu'on appelle des airs de cour. Alors les airs de cour à cette époque-là, c'était des œuvres où il y avait un chanteur qui était accompagné en général par un luth ou un théorbe, et on écoute des poésies qui des fois sont un peu mièvres. Écoutez, on est quand même au XVIIe siècle, mais qui ma foi en général sont assez belles. Alors M. Pierre Guédron, il a d'abord été à la chapelle de Louis II, chanteur à la chapelle de Louis II de Lorraine, puis après l'assassinat du duc de Guise, il a été chantre à la chapelle royale, donc nous sommes venus à Paris, et ensuite il est devenu une des personnalités musicales les plus importantes à la cour du roi de France, qui était à cette époque-là Henri IV. Alors il a énormément composé des airs, des ballets de cour, et surtout, eh bien, ce qu'on appelle des airs de cour. Alors là, nous allons écouter un enregistrement, une réédition de chez Glossa. Glossa, c'est un label qui fait énormément pour la musique baroque et autres. Et donc, cet enregistrement, cette réédition a été enregistrée pour la première fois en 1995. Et nous allons écouter la très belle, la merveilleuse soprano Claudine Ansermet, qui, vous allez voir, a une très belle diction. Chaque syllabe est absolument extraordinaire. Et elle est accompagnée au luth par Paolo Cerici. Donc, nous allons écouter un air donc, de cour de M. Guédon. C'est Quel espoir de carrière, Claudine Ansermet, Paolo Cerchi, et c'est un disque de la firme Glossa.
Sans mourir,
Voilà, c'était la merveilleuse voix de Madame Claudine Ansermet, soprano, qui était accompagnée de Paolo Cherici au luth. Et c'était une réédition de Pierre Guédron, réédition de la firme Glossa. Alors tout à l'heure, si vous voulez bien, en fin de programme, on pourra réécouter un peu de la firme Glossa. Vous savez, c'est le label pour lequel a enregistré Franz Brüggen, pour laquelle la semaine dernière nous avons fait une émission spéciale. Et là, nous écouterons un peu, nous aurons un peu de temps et nous l'écouterons. Alors là, nous allons passer à un extraordinaire pianiste. Il s'agit de M. Georges Bollet, ou Georges Bollet, comme vous voulez. Il est né en 1914 à La Havane et il est mort en 1990 à Mountain View, c'est-à-dire aux États-Unis. Alors, c'est sa sœur Maria. Alors, si vous voulez savoir à quoi il ressemblait, il faut savoir qu'il ressemble un peu à Dirk Bogarde, vous savez, un grand monsieur avec une moustache et des cheveux gominés absolument extraordinaires. C'était un immense pianiste qui a énormément joué, en particulier du Liszt. Alors, c'est sa sœur Maria qui lui a donné ses premiers cours de piano. Ensuite, il est parti aux États-Unis, donc là on était à La Havane. Hein. Il est parti au Curtis Institute of Music de Philadelphie. Il a travaillé avec M. Stapperton, qui était rien d'autre que le gendre de Léopold Godowsky, immense pianiste. Et il a travaillé avec Godowsky, il a travaillé avec Joseph Hoffmann. Et à l'âge de 20 ans, en 1934, donc, il a été un peu lâché dans la jungle des Grands Prix. D'ailleurs, il en a eu plusieurs. Et il a donné des grands récitals au Carnegie Hall. Et évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, son compositeur de prédilection, c'était Franz Liszt. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a reçu l'ordre de grandir à Cuba. Puis en 1944, il s'engage dans l'armée américaine et il est envoyé au Japon, où on lui confie un poste de directeur musical. Et oui. Ensuite, il a enregistré, par exemple, une bande de sons d'un film sur Franz Liszt qui s'appelait « Chansons sans fin ». Et vous savez ce qui est passé? On le trouvait trop virtuose. Eh oui, trop virtuose. Pourtant, il faut savoir qu'à cette époque-là, ça avait uniquement du fait que des années 50 à 60, ce n'était pas la mode de faire donner des récitals avec des grands compositeurs romantiques comme Liszt, et c'était certainement pas trop à la mode. En 1974, il a donné un immense récital au Carnegie Hall, qui a été enregistré, et il a été d'ailleurs le successeur de M. Rudolf Serkin, au chef du département au Curtis Institute. Voilà. En 1979, il a signé, excusez du peu, à l'âge de 63 ans, son premier contrat avec la firme Decca. Et là, il se met à enregistrer pour cette firme Decca, pratiquement jusqu'à la fin de sa vie. Et donc vient de paraître justement chez RCA l'enregistrement complet de ce qu'il a pu faire, donc 10 CD, un immense coffret absolument extraordinaire. Vous allez trouver des ouvertures de Tannhauser, par exemple Schönen Liszt, vous allez trouver tout un tas de choses, et en particulier des chaconnes, les fameuses chaconnes Bach Busoni, le Beau Danube Bleu. C'est d'ailleurs ce qu'on va écouter, et vous allez voir comme c'est tout à fait étrange. Donc un grand monsieur, immense monsieur, et là nous allons l'écouter justement dans les arabesques de concert sur des motifs du Beau Danube Bleu. Donc cet extrait de ce CD, vous allez voir, c'est assez virtuose. Donc les arabesques ont été faites par monsieur Schulz Evler, et donc au piano Georges Bollet. Et c'est des enregistrements qui ont été réalisés entre les années 58 et 69. Thank you. Voilà, c'était Monsieur Georges Bolette. Alors, c'était un musicologue et consultant pour le fameux film de la chanson sans fin avec justement Dirk Bogard. Donc, un critique musical, un musicologue, lui a dit « Vous jouez vite, mais ça ne s'entend pas ». Là, quand même, on entend que le monsieur, il avait plus de deux mains. Voilà, c'était Monsieur Georges Bolette. Et il me semble que la dernière fois que j'ai entendu, c'était au Festival Radio France, dans les premières années du festival. Et il me semble qu'il était venu. Voilà, Georges Bolette, donc ceci pour donner un petit hommage à cet immense pianiste et pour un coffret de 10 CD qui s'appelle Georges Bolette, The Complete RCA and Columbia Album Collection. Voilà, ça vient de paraître chez RCA. Alors pour terminer, nous allons revenir sur un musicien que nous avons écouté la semaine dernière qui s'appelle Monsieur Franz Bruggen. Nous l'avons écouté, en particulier des enregistrements qu'il a fait pour la firme Glossa. Et là, je ne résiste pas au bonheur de vous faire écouter une fantaisie pour flûte en ré mineur de Monsieur Telemann. C'est un enregistrement Warner et vous allez voir comment Monsieur Franz Bruggen avait un souffle hors du commun. Voilà, vous écoutez derrière moi Monsieur Franz Bruggen qui joue une fantaisie pour flûte en ré mineur. Et c'est un hommage donc que nous lui rendons. Et cette émission aujourd'hui était consacrée entièrement à des nouvelles parutions dans le domaine du CD. Vous êtes bien sur FM Plus, le 91 de Montpellier, ou Alliance Plus, 103.1 à Nîmes. Bye bye, à la semaine prochaine.